Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Quel beau samedi, enfin beau samedi en tout cas pour le passer en votre compagnie. Selon où vous habitez, le ciel est plutôt gris, le ciel est plutôt bleu, la pluie est là. Attention sur les routes, hein, ça glisse toujours. Nous avons un très très joli programme à vous proposer aujourd'hui. On va revenir évidemment sur la hausse annoncée des tarifs auto pour les assurances auto. Et cette question hein, que l'on vous pose, l'assurance auto en France, à votre avis, est-elle trop chère? Est-ce que vous avez changé dernièrement d'assurance? Parce que franchement, ça ne valait pas le coup de payer aussi cher pour une assurance telle que celle-ci. Vous nous rejoignez au 0826 300 300, ou est-ce que vous êtes très content de votre assurance et vous comprenez qu'elle augmente plus ou moins, en tout cas c'est annoncé entre 1,5 et 2% pour 2021. Salut mon Pierre.
Salut ma Lolo, comment tu vas?
Bah bien, et toi?
Bah écoute, ça pourrait aller mieux, bah mais oui, bon, ça commence à aller mieux. Si j'ai des petites quintes de tout, faudra pas m'en vouloir.
Alors, il y a un mot à ne pas dire. Il y a un mot à ne pas dire. Il y a un mot à ne pas dire. Mais on vous racontera, mais si vous le savez, si vous écoutez ça roule. Oui, en fait, il y a eu quand même une suspicion de Covid. Tu es obligé de faire le test?
Oui, malheureusement. Bon, ben voilà, je pense que le résultat, je l'attends. On attend négatif, bien évidemment. Vous l'entendez bien. Je vais bien, je suis en forme. Mais je pense que c'était juste une rhino-pharyngo-trachéite à laquelle je suis habitué depuis maintenant une bonne vingtaine d'années.
Et pourtant, mais bon, voilà. Et pourtant, tu ne fumes pas, tu n'as jamais fumé. Donc, on pourrait se dire.
Non,
ben non, ouais. Rien. Bon, en tout cas, tu fais bien de rester chez toi pour ne pas faire prendre de risques à ton entourage. Et on te remercie pour cela. On a parlé de l'assurance, on va en parler effectivement. Ce sera notre premier sujet. Mais il y a un autre sujet également qui nous a fait tous réagir ici à Sud Radio, et ça roule, c'est cette idée de la convention citoyenne, on en parlera mon Pierre, rapidement, de taxer en plus l'achat du véhicule à son poids, c'est-à-dire qu'en plus de son prix, en plus des taxes carbone, on peut aller entre 3 000-6 000 euros de plus si on prend une grosse voiture.
Oui, puis alors avec des incohérences dont on va parler, ouais. Laurence, mais alors, en étant honnête, cette convention citoyenne pour le climat, je me souviens, Emmanuel Macron avait dit « Je m'engage à mettre en œuvre chacune des propositions de la convention citoyenne ». Eh ben, il est mal, hein, parce que le 110 sur autoroute, il a été obligé de le casser. La taxe sur le poids, il a envoyé Bruno Le Maire, ministre de l'économie, pour la casser, mais la ministre de l'écologie dit « je vais la faire passer quand même ». Eh bien, le pauvre Emmanuel Macron, je me dis qu'avec une équipe d'amis comme ça, il n'a plus besoin d'ennemis. Hein.
Et puis, nous parlerons également après-midi de toutes ces mesures anti-voiture, la place de l'automobile dans les grandes villes à l'heure du Covid, avec une énorme, magnifique enquête et étude qui a été menée par François Cros, qui est directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP. Il sera en notre compagnie pour décrypter tout ça. Et là aussi, on va apprendre pas mal de choses. Mais 11h05, si vous le voulez bien... Mon Gaspard, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour.
J'ai failli oublier de te dire bonjour, mais t'étais déjà là depuis une heure et on s'est déjà vu.
Oh là là.
On va ensemble faire notre tour de table, coup de gueule, coup de cœur. C'est parti, c'est un des nouveaux rendez-vous pour cette rentrée de Ça roule sur Sud Radio pour septembre 2020. Gaspard.
Alors on commence. Je commence, quel honneur. Ouais. Alors moi, petit coup de cœur, évidemment humoristique, pour la journée sans voiture de demain, qui aura lieu à
Paris. T'as de la chance que je sois pas là, toi.
Non mais écoute, Pierre, à Paris, parce que ça va être vraiment génial. Hein. Il pleut toute la journée, avec le matin 11 degrés, l'après-midi 14, et des rafales de vent attendues à 65 km/h. Enfin, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde dans les rues de Paris demain. Ça va être vraiment incroyable, et j'ai vraiment hâte d'y aller.
Ah ça, tu vois, tu Pierrot, t'as bien fait de nous rejoindre, hein, tu vois, ça te fait rire.
C'est pas la journée sans voiture demain, c'est la journée sans piéton.
Sans personne.
Ouais, et sans vélo aussi, sans cycliste. Exactement.
Bon, en ça gros, va tout le monde va rester à la maison. Quoi.
Alors malheureusement, ça va être le cas aussi pour Roland Garros. Hein. Ils n'ont pas le droit à plus de 1000 personnes, tout compris, y compris les staffs. Ça va être triste sur Roland Garros. Mais bon, dites donc, moi j'ai un sacré coup de cœur à partager avec vous. Et mon Pierre, mon Gaspard, et vous qui écoutez Ça roule de Sud Radio, vous vous souvenez du fameux type H de Louis La Brocante avec Victor Lanoux? Vous vous souvenez de ce Citroën qui a été le digne descendant du fameux tube? Eh bien, il y a un designer italien qui est en train de le relancer. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, il habille de nouveau d'autres voitures comme le Space Tourer en fourgon Citroën type H, comme le Citroën Jumpy, comme le Jumper. Et donc, si vous en avez envie, je vous propose d'aller voir tout simplement son... Ah, c'est le générique de... Il arrive, ouais. Oh, merci mon Max. C'est le générique de Louis La Brocante, Victor Lanoux.
Et voilà.
Et si vous voulez voir ses réalisations, allez sur sa page Instagram. La page Instagram, c'est simplement Type H. Voilà, donc vous voyez toutes les réalisations qu'il a faites. Alors évidemment, c'est un peu modernisé, mais franchement, c'est bien. L'intérieur reste aussi moderne que votre jumper aujourd'hui. Voilà, moi, c'est un gros coup de cœur parce qu'on peut faire revivre hier au goût d'aujourd'hui. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Pour vivre aussi demain. Et toi, Pierre ?
Ben, vous savez, habituellement, je fais des coups de gueule. Tout le temps.
Ouais.
C'est pas un scoop, c'est pas un choc. Et ben cette fois-ci, j'ai un coup de cœur.
Toi aussi ?
Et mon coup de cœur, ouais, mon coup de cœur, c'est Thierry Cognet, le président du CCFA, le Comité des constructeurs français de l'automobile, qui a parlé tout simplement d'un plan de massacre de l'automobile française qui était en train de se préparer. Oui, j'ai un coup de cœur parce que c'est le symbole des constructeurs qui commencent à monter au front. Alors, il en aura fallu. Hein. Le système du bonus-malus, ils ont laissé 40 millions d'automobilistes, mon association y allait tout seul. Les autres sujets anti-mobilité, les restrictions automobiles, les vignettes critères, c'était à peine s'ils applaudissaient pas des deux mains en médias pendant qu'ils m'envoyaient au front en me disant « c'est bien, Pierre, vas-y, fais le boulot pour nous ». Eh bien, enfin, ça y est, on a un président du CCFA qui est en train de dire « là, vous avez franchi la ligne ». Et je vais vous donner un exemple. La suppression de la pub automobile dans les médias. Alors, la suppression de la pub automobile, ça veut dire quoi ? Quand on regarde, pensez quand vous allez à la brasserie du coin, les petits sets de table en dessous, vous avez 4-5 pubs, la moitié, c'est de l'auto. Quand vous allumez votre télévision pour regarder, je sais pas moi, Koh-Lanta, tiens, si vous aimez Koh-Lanta, la moitié des pubs, c'est de l'auto. Quand vous regardez la presse écrite qui se porte si mal, 40% des pubs, c'est l'auto.
Et en radio.
Alors,
également.
Si demain, et en radio aussi, quand vous écoutez Sud Radio, eh bien, que vous entendez des diverses pubs pour l'automobile, c'est ce qui fait vivre aussi vos programmes, nos programmes. C'est ce qui fait qu'on peut encore avoir des médias et une chaîne de l'information. Alors, je vais dire à tous ces gens-là qui veulent inventer des idées saugrenues pour tuer l'automobile, qu'en tuant l'automobile, ils ne tuent pas que l'automobile. Ils vont tuer la radio, la télé, la presse écrite, les loisirs, bref, tout. Et je suis content de cette tribune du plan de massacre de l'automobile française qui se prépare de Monsieur Thierry Cognet, président du CCFA.
Et voilà. Je te propose d'ailleurs de lancer une invitation pour qu'il vienne nous rejoindre. Et puisque tu parles du CCFA, nous serons tout à l'heure sur cette nouvelle idée saugrenue de la Convention citoyenne, je vais me faire des amis, de taxer au poids l'achat d'une voiture neuve. Nous serons aussi
la
avec
grossophobie.
Francis Bartholomé, qui est directeur national du CNPA, lui, donc le Comité National des Professionnels de l'Automobile. Bref, toute la filière se mobilise. Il faut peut-être un petit peu arrêter de penser à l'envers, de remettre les pieds sur terre. On n'est pas contre le fait de faire attention à la planète, mais il faut peut-être le faire d'une façon un peu intelligente, hein, ça évitera de perdre du temps, entre autres. Tiens, allez, mon Pierre, on va nous faire une pause et dans quelques instants, on va parler de prix encore. On va parler de cette annonce qui a été faite pour l'assurance, hein, alors que nos voitures sont restées au garage du 16 mars au 11 mai 2020. Pour la plupart d'entre nous, ça a entraîné une baisse de 80% du taux de sinistre. Les tarifs d'assurance auto pourraient quand même augmenter de 1,5% à 2%. C'est une annonce qui est parue il y a 10 jours. Comprenez-vous une telle augmentation une fois de plus ? Votre assurance a-t-elle régulièrement augmenté depuis quelques années au point que vous en avez changé ou que vous allez le faire ? L'assurance auto, pour vous, en France, est-elle trop chère ? On en parle avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur notre sondage Twitter @suedradio. Et on en parlera aussi, Pierre, avec notre invité, Olivier Moustakakis, qui est cofondateur de Arsurland.com. A tout de suite.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on vous pose la question directement sur le Twitter de Sud Radio avec notre sondage et vous pouvez bien sûr y répondre @sudradio. Assurance auto encore plus chère. Comprenez-vous la nouvelle hausse des prix annoncée ? Vous êtes évidemment 94% à ce moment de l'émission à dire non. Le sujet est donc posé, mon Pierre. On nous annonce une hausse de l'assurance auto pour 2021 alors que, comme je vous précisais, du 16 mars au 11 mai 2020, la plupart d'entre nous ont laissé les voitures au garage. On a eu une baisse de 80% du taux de sinistre. Avec, tout de suite, on va poser la question à notre invité, Pierrot. Vous m'avez parlé d'un chiffre aberrant de ce qu'ils ont fait comme argent, monsieur Olivier Moustakakis, cofondateur de Assurland.com, sur cette année.
Sur cette année, donc, à aujourd'hui, suite au confinement, les assureurs en automobile ont réalisé une économie de 2 milliards d'euros.
Hein, en fonction de, c'est propre.
2 milliards d'euros, c'est factuel. ils le reconnaissent de toute façon, hein, ce sont des chiffres.
Rapprochez-vous du micro si vous le voulez.
Ce sont des
bien.
Chiffres qui ne Merci. Contestent pas. Donc 2 milliards d'euros, c'est une économie qui est colossale. Donc il y a aujourd'hui, à ce stade de sinistralité, puisque la sinistralité, même post-confinement, reste en baisse, il y a encore une baisse du nombre de tués et de blessés, et donc des accidents. Donc vous avez une économie qui continue à perdurer, la sinistralité continue à baisser, donc il n'y a factuellement aucune raison, si on reste sur ces niveaux de sinistralité, de prévoir une augmentation des tarifs automobiles pour 2020.
Alors Olivier, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le point sur Internet, j'ai tapé 2-3 assurances comme ça pour voir un petit peu ce qui se passait. Effectivement, j'ai vu quelques noms d'assurances qui augmentaient les tarifs au 1er janvier 2021. Donc, on peut les nommer, hein. Je veux dire, on est bien passé. Et puis, j'ai vu aussi des assurances qui, eux, ont fait le
ne
choix de dire
bah,
nos sociétaires ne bougeront pas. C'est le cas notamment de la Matmut, hein, je le lis, je l'ai sous les yeux, qui dit « La Matmut n'augmente pas ses tarifs auto pour l'ensemble de ses sociétaires jusqu'au 31 décembre 2021. »
La MAF voilà, aussi, précis. Pierre, la MAF aussi a promis de geler ses cotisations.
On va donner d'autres marques, évidemment, Olivier, mais disons-le clairement, on vient de donner un petit mot sur ceux qui n'augmentaient pas. Qui sont ceux qui augmentent?
Alors, à ce stade, et aujourd'hui, on ne sait pas, vous faites référence à une étude qui a été publiée il y a une dizaine de jours par un cabinet de conseil qui travaille pour les assureurs.
Qui s'appelle Facts and Figures.
Facts and Figures, qui prévoit des hausses de tarifs. Or, nous, ce n'est pas ce qu'on observe déjà aujourd'hui par rapport aux indices que l'on publie sur notre site, sur l'ente.com. Puisque l'augmentation sur l'assurance auto en 2020 par rapport à 2019, à date, on est à 0,4. Donc on est quasiment sur des prix assez stables. Et nous, on parie plutôt, si la sinistralité reste à ce niveau faible jusqu'à la fin de l'année, sur un gel des tarifs l'année prochaine. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un domaine, on est dans une activité commerciale dans l'assurance. Il faut sortir du
mythe. Pourquoi on prévoit une augmentation des tarifs alors que, objectivement, dans le contexte actuel, on n'a pas roulé?
Alors,
je comprends pas.
Moi, Pierre, je comprends ta question. Et en même temps, quand j'ai étudié le sujet, j'en ai parlé à notre invité Olivier Moustakakis, qui est cofondateur d'Assureland.com. On fera un point d'ailleurs sur Assureland.com. Je lui ai dit, mais moi, ce n'est pas une surprise. Depuis 10 ans, les études que j'ai faites et que j'ai réussi à ressortir, chaque année, les assurances auto ont une augmentation entre 1,5 et 2%. En fait, ça ne change pas. Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un pataquès?
Alors, il y a des augmentations sur les dernières années, puisqu'il y a une augmentation du coût des réparations, du prix des pièces détachées, puisque malheureusement, c'est un mécanisme qui est encore verrouillé, parce qu'il y a un lobbying des constructeurs là-dessus, sur les pièces détachées. Donc, c'est eux qui fixent les tarifs. Donc, année après année, c'est une augmentation quasi séculaire du montant des pièces détachées. Vous avez des véhicules qui sont de plus en plus avec de l'électronique embarquée.
Donc, de sécurité.
Ou des réparations qui coûtent de plus en plus cher. Voilà. Pour autant, sur l'année qui nous concerne, 2 milliards d'euros d'économies. Donc, il n'y a factuellement aucune raison de voir les assurances auto augmenter. Après, on est dans un domaine d'activité commerciale. Donc, je vais parler d'un domaine que vous connaissez bien, Pierre, celui des constructeurs auto. Si Renault, Peugeot ou d'autres constructeurs pouvaient vendre leurs voitures 10 fois plus cher, ils le feraient.
Bah, évidemment.
Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une compétition. Ben, dans l'assurance, on est dans le même cas de figure. Donc, si certains avaient des velléités de vouloir augmenter leurs tarifs, la compétition jouant, les gens peuvent résilier avec la loi Hamon maintenant.
Alors,
dans l'assurance. Donc, ils vont réfléchir à 2 fois, je pense.
On va accueillir Mohamed, parce qu'il y a évidemment du monde qui appelle. Hein, Pierre, tu t'en doutes bien, les sujets assurance, ça nous concerne tous. Au standard de Sud Radio, 0826-300-300. Je vous rappelle le sondage qui a lieu actuellement sur Twitter, la page Sud Radio de Twitter, avec cette question. Assurance auto encore plus chère, comprenez-vous la nouvelle hausse de prix prévue? Vous êtes toujours, on est toujours à 94% de non. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et à vos invités. Ben voilà, je viens de changer justement d'assurance auto parce que je trouvais mon assurance un peu trop chère et pas du tout intéressante. Et donc, je ne comprends pas du tout cette augmentation. En plus, bon, on est resté longtemps arrêté sans trop rouler, donc pas trop d'accidents. Mais en plus de ça, on nous dit que maintenant, on peut nous mettre des pièces d'occasion qui coûtent 2 fois moins cher. Et leur fiabilité, peut-être, c'est une discussion à avoir un petit peu, parce qu'on vous pose un capot ou une porte ou un haillon arrière, ou ce que les charnières ont morflé, c'est le véhicule a dormi dehors ou dedans. Bon, la pièce n'a pas les mêmes, elle ne vieillit pas pareil. Je trouve que c'est anormal. Et j'ai l'impression que l'automobiliste est en train de payer les frais que les assurances engagent dans d'autres directions. Je pense un petit peu tout ce qui est le spatial et tout ça qu'ils assurent, et chaque fois qu'il y a un raté, on le paye très cher. C'est un petit peu dommage, c'est pas l'automobiliste d'assurer tout ça. Voilà un petit peu alors, mon point de vue.
Super, merci. Mohamed, vous habitez où ? Perpignan, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Bon, alors, c'est vrai que pour répondre Pierre. Un petit peu, Mohamed, un assureur auto, très souvent, il n'est pas que assureur auto. Mais l'assurance auto, c'est souvent, chez certaines marques, un petit peu le produit qu'on place en tête de gondole pour permettre de vendre d'autres assurances, type l'assurance habitation, qui rapporte quand même beaucoup plus d'argent à l'assureur. Je pense qu'Olivier, vous n'allez pas me contredire là-dessus.
Olivier.
Alors tout à fait, c'est un produit d'appel à l'assurance automobile. C'est un marché qui devient de plus en plus compétitif depuis la mise en place de la loi Hamon. Donc les portefeuilles sont beaucoup plus volatiles qu'avant, puisque les gens ont la possibilité, après un an d'assurance, de résilier à tout moment. Donc voilà, donc les assureurs font quand même assez attention en termes de variation de tarifs, surtout à la hausse, parce qu'ils savent qu'une hausse de cotisation est un premier signal et un déclencheur surtout de résiliation, et ça incite les gens à aller voir ailleurs.
Mmh. Alors, et puis après, on le rappelle parce que c'est très important, l'assurance auto est l'un des trois produits en France les plus taxés par le gouvernement. Donc il faut pas perdre ça de vue non plus. Alors, Pierre, et comprendre que quand on change un pare-brise, par exemple, ça coûte 700 euros et que ça coûte très, très cher à l'assureur.
Concrètement,
aussi,
Olivier Moustakakis, ce que vient nous dire Pierre et qu'il le rappelle régulièrement, et il a raison, puisque c'est un des produits, puisqu'il s'agit d'un produit plus taxés. Ils sont taxés à combien, les assurances ?
Alors, sur la responsabilité civile, qui est une assurance obligatoire, où, là, on n'a vraiment pas le choix, parce qu'on est obligé de s'assurer, on est à 60%.
Ah, waouh !
Ce qui est monstrueux.
Alors, vous disiez qu'effectivement, il y a eu beaucoup de voitures, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pris leur voiture, donc il y a eu une baisse, et puis je vous annonçais les chiffres, on est à 80% du taux de sinistre en moins sur la période du confinement. Oui. Or, autre information que j'ai réussi à trouver, c'est, pour en avoir été victime, du coup, je me suis renseignée, on a eu une hausse du vol des véhicules, plus une hausse du vol à la roulotte des voitures stationnées. Il y a eu de plus en plus de vols pendant ce confinement, plus que d'habitude, a priori. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer un petit peu
non,
cette
mais oui,
hausse.
De toute façon, c'est un phénomène de compensation. Il y a plus de sinistres, moins de sinistres, etc. Donc après, il peut y avoir plus de vols. Il y a eu quand même beaucoup moins de blessés, beaucoup moins de tués et beaucoup moins de fréquences de sinistres.
Et
c'est tant mieux. Hein, puisqu'on est tous on était tous confinés, nos véhicules aussi. Donc au global, il y a eu 2 milliards d'économies. Donc 2 milliards, c'est pas neutre. Donc il n'y a factuellement aucune justification aujourd'hui, si la sinistralité reste en l'état jusqu'à la fin de l'année, à ce qu'il y ait une augmentation des hausses du tarif de l'assurance automobile. Et là, ce sont des prévisions que prévoit ce cabinet d'études. Voilà, nous, ce n'est pas du tout ce que l'on prévoit. On prévoit plutôt un gel, et on parie plus pour un gel des tarifs pour l'année prochaine.
De toute façon, comme il y a certaines assurances, comme le disait Pierre en début, qui ont annoncé qu'elles ne toucheraient pas leur tarifs, les autres assurances vont devoir, à un moment ou à un autre, faire pareil. Sinon, elles vont avoir un nombre d'assurés qui vont partir.
Ils vont avoir du mal à justifier une hausse de cotisation s'ils avaient des velléités de prévoir une hausse. Et avec la concurrence qui joue, ça va être quand même très compliqué.
Je vous propose de rencontrer Claude, qui fait le 0826-300-300. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Hein. Venez nous rejoindre et nous aussi vous parler de cette assurance auto. Est-ce que vous allez changer l'année prochaine, puisque votre assurance a déjà annoncé son augmentation ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Est-ce que vous trouvez normal de payer le tarif que vous payez pour votre assurance ? Au 0826-300-300. Salut Claude.
Oui, bonjour.
Vous allez bien ?
Bonjour Claude. Ça va très bien. Oui, effectivement, je comprends mieux avec le taux de le pourcentage que prend l'État les tarifs, mais comme vous disiez, comme les gens ne roulent pas, mais ça existe déjà puisqu'il y a l'histoire du bonus-malus qui augmente ou baisse le tarif suivant la conduite de la personne, si elle a des accidents ou pas. Donc déjà, ils compensent comme cela et devraient récompenser ceux qui sont des bons conducteurs et justement geler le tarif. Parce que là, franchement, je ne vois pas le bien fondé d'augmenter systématiquement à tout le monde.
Vous étiez au courant de cette fiscalité appliquée aux assurances auto par l'État ?
Non, parce qu'il n'y a pas de communication à ce sujet.
C'est vrai.
Eh si, il y a l'association 40 millions d'automobilistes.
Mais oui, t'as raison Pierre.
C'est quand même incroyable ça.
Ouais. Mais c'est vrai, si vous voulez.
Vous êtes les seuls.
Non mais c'est important parce que... Je sais, malheureusement, mais c'est vrai que du coup, j'ai un autre regard, parce que vous voyez, moi, mon boulot, c'est la défense de l'intérêt général des gens, des automobilistes que nous sommes tous. Mais quand j'ai eu ces chiffres, j'en suis tombé de ma commode parce qu'ensuite j'ai fait un calcul simple. Quand vous voyez un taux d'imposition comme ça par l'État, un taux de taxation, de fiscalité, ensuite vous regardez et vous dites bon, bah, c'est vrai, il m'est arrivé de changer une fois mon pare-brise. Ça a coûté 750 euros. Et j'ai compté le nombre d'années qu'il fallait à mon assureur pour refaire de mon dossier auto un dossier rentable. Eh bien, je me suis rendu compte que depuis 10 ans, je cotise moins que ce que me rend l'assurance.
Oui. Bah, tu vois. Voilà. Puis alors là, l'exemple type de ma voiture volée qui a dû être remboursée par mon assurance, puisqu'on a dit qu'on a donné plusieurs noms, moi c'est la Massif, ils ont fait un boulot exceptionnel. Ouais, ben là je pense que je peux être assuré chez eux pendant au moins 20 ans avant que j'arrive à leur rembourser ce qu'ils m'ont donné.
Non mais monsieur... c'est un principe de toute façon statistique, hein, c'est une équation économique, c'est un équilibre entre les cotisations qui leur sont versés et derrière les montants de sinistre qu'ils ont indemnisés.
Olivier Moustakakis, Pierre, on va faire une pause, cofondateur d'Assureland. On revient tout de suite et on revient sur Claude de Pessac qui lui nous dit aussi qu'il estime qu'il faut changer d'assureur quasiment chaque année en fait pour pouvoir garder des prix abordables. Vous allez nous en parler.
Mais la paperasse.
Voilà, mais vous avez, mais du coup avec Assureland.com peut-être pas, donc faut quand même aussi qu'on explique.
Exactement.
Parce que vous avez un peu révolutionné aussi le monde de l'assurance et on vous en remercie. C'est tout de suite sur Sud Radio. On rappelle aussi le sondage que l'on vous propose sur le Twitter de Sud Radio. Si vous avez Twitter, n'hésitez pas. Et alors là, on est exactement à cette question assurance auto encore plus chère. En 2021, comprenez-vous la nouvelle hausse de prix? Et vous êtes 91% à dire oui. Évidemment, de toute façon, dès que ça touche à notre portefeuille, soyons honnêtes, on n'aime pas ça. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret,
Laurence Perrault.
Et on parle de cette hausse de l'assurance auto qui est annoncée pour l'année prochaine. On en parle beaucoup depuis une dizaine de jours. Et on en parle avec notre invité, Olivier Moustakakis, cofondateur de Assureland.com. Nous étions au 0826 300 300 avec Claude de Pessac. On va revenir sur sa façon de voir les choses, qui nous appelle de Gironde. Et puis, nous avons aussi Mohamed de Perpignan qui nous disait, lui, qu'il ne comprenait pas pourquoi, effectivement, il y avait cette hausse annoncée alors que le confinement, mais je crois qu'on a plus ou moins répondu déjà à cette question. La position de Claude de Pessac, on en parlait tous les deux, Olivier Moustakakis, vous qui avez cofondé Assureland.com, qui dit qu'il faut changer d'assureur quasiment chaque année pour pouvoir garder des prix. C'est bien ça, Claude, hein ?
Approximativement. Ouais. Si votre assureur est compréhensif, évidemment, si vous gèle le prix, il n'y a pas de raison. Oui. Mais il faut lui mettre un peu la pression. Parce que je me suis aperçu également que, par exemple, sur le prix des franchises bris de glace, par exemple... La base d'une assurance, c'est sur la responsabilité. Or, quand vous recevez une projection, souvent par des véhicules de BTP qui l'ont fait tomber sur le bitume ou qui l'ont encore sur la barre transversale de leur camion ou débâché, et que vous recevez les cailloux, on vous rend responsable en partie, et certaines franchises arrivent à pratiquement 50 ou 60% du prix du pare-brise. Alors là,
la réparation,
Et vous savez ce que disait, moi ça m'a fait rire, Olivier Moustakakis quand on en a parlé tous les deux pendant la pause, Claude et Pierre et vous qui écoutez Sud Radio, c'est que de toute façon il a raison, Claude, il faut changer parce que la fidélité ne paie pas. Et je lui dis, il n'y a pas que pour les assurances auto.
Alors,
tout à fait. Dans l'assurance, il y a rarement une prime à la fidélité. Donc.
Là
Claude,
content,
vous avez
Olivier.
Raison, vous avez un point tout à fait pertinent. C'est que vous avez bon nombre d'assureurs qui ont un produit d'appel, hein, c'est un produit pour capter de nouveaux clients, donc ils vont avoir une prime de première année attractive et qui ensuite, année après année, vont augmenter les cotisations. Donc il y a une vraie valeur à faire assez régulièrement. Alors, est-ce que c'est une fois par an, une fois tous les 18 mois, 15 mois, 16 mois ? Il y a une vraie valeur à comparer et à rechercher en fait, assez régulièrement pour voir s'il n'y a pas un tarif plus intéressant ailleurs, en effet.
Là où, Olivier, vous avez été remarquable dans la démarche d'Assureland, et c'est pour ça que c'est ultra intéressant, c'est que vous avez tout de suite perçu qu'on était dans un schéma concurrentiel. Et qui dit schéma concurrentiel, ça veut dire comparateur. Assureland, finalement, c'est un comparateur. Et c'est vrai que quand on regarde... Alors, faut regarder, évidemment, si ça se joue à 50 centimes, on va peut-être pas changer d'assurance tous les ans pour 50 centimes. Mais quelquefois, pour certains, la différence est flagrante. Moi, j'ai de la chance... Franchement, mon contrat d'assurance, d'ailleurs, j'ai fait le test. J'ai voulu regarder sur Assureland et ça m'a conforté. Je me suis dit, là où je suis avec mes 66% de bonus, parce que je suis chez un assureur qui pratique le bonus au-delà de 50, économiquement, c'est bien. Mais attention, Olivier va nous le répéter, il faut comparer ce qui est comparable. Le niveau de franchise, par exemple, c'est quelque chose de capital, comme disait Claude.
Ah, mais complètement. Il faut comparer à garantie, à niveau de garantie équivalent. Mmh. Autrement, ça ne fait strictement aucun sens.
Je voudrais vous poser la question, parce qu'on vous a, Olivier Moustakakis, hein, cofondateur d'Assureland.com. J'en profite pour remercier Claude. Belle journée du côté de la Gironde à Pessac. Prenez soin de vous, surtout. Dites-moi, aujourd'hui, vous qui êtes quand même Assureland.com, donc c'est le premier site aujourd'hui où on peut comparer ses assurances. Oui. Sans langue de bois, quelle est l'assurance qui propose pas spécialement les meilleurs tarifs, mais les meilleures couvertures, le rapport qualité-prix, en fait
Ça va dépendre du profil. Il n'y a pas de réponse, parce que chaque assureur a des millions de tarifs différents. Parce que le métier de l'assurance, c'est un métier de statistique. Hein. Donc, ils ont des modèles statistiques en fonction de la sinistralité, en fonction de plein de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie valeur à régulièrement venir faire le tour du marché et venir comparer. Parce que cette réponse-là...
On ne peut pas la donner.
Je peux vous la donner pour vous à l'instant T si vous faites une comparaison. Si vous faites votre comparaison dans 5-6 mois, ce ne sera pas du tout la même répartition et le même assureur qui sera le mieux positionné.
Donc, dans les repas de famille ou dans les repas amicaux, mon Pierrot, ça ne sert à rien de comparer ces assurances puisqu'on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes pourcentages de bonus, etc., etc. Pierre, juste avant de donner la parole à René qui nous appelle de Toulouse...
Ouais, juste un point, Olivier, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas dans la démarche des assureurs. Il va falloir m'expliquer. Quand on arrive chez un assureur, moi, je suis arrivé chez mon assureur, j'étais jeune conducteur. Et j'ai pris mon assurance
au
en fonction de cela. Oui, je suis toujours jeune, mais je suis plus jeune conducteur. Bref, je remarque que les tarifs pour les jeunes conducteurs, s'il y a un secteur où j'ai l'impression que c'est pas du tout concurrentiel, c'est bien le secteur du jeune conducteur. Alors, les assureurs n'en veulent pas, Olivier ?
Alors, certains assureurs, ce sont des profils qui jugent trop à risque, donc en effet, ils n'en veulent pas. Bon, après, il y a quand même une compétition hein, sur les jeunes conducteurs. Voilà, et notamment, il y a des tarifs qui sont intéressants si vous avez été dans le cadre d'une conduite accompagnée, etc., puisque les gens qui ont démarré en conduite accompagnée sont moins déclencheurs de sinistres, il y a moins de fréquences de sinistres sur ces populations-là. Voilà, après, il y a des risques, c'est comme dans l'habitation, dans certaines zones de France ou extra, en Corse par exemple, il y a des assureurs qui ne veulent pas assurer la Corse pour des raisons d'attentats, etc. Donc voilà, donc après, chaque assureur est libre de choisir en fait les profils qu'il souhaite assurer.
Et d'ailleurs, pour les jeunes conducteurs, il y avait une assurance, je me souviens plus laquelle, donc je vais pas vous dire de bêtises, une ou deux d'ailleurs, qui avait plus ou moins intégré dans ses primes d'assurance le fait que si le jeune conducteur, en gros, a assuré de pas boire du tout, puisqu'on sait que c'est malheureusement la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est l'alcool et stupéfiants au volant. D'ailleurs, on l'a vu encore dernièrement avec cet accident dramatique sous stupéfiants où il y a deux jeunes qui sont morts. De moins de 20 ans, il y avait des assurances comme ça qui mettaient une prime à ces jeunes qui assuraient de ne pas prendre le volant ou voilà une prime un peu une prime un peu intelligente. Ça existe toujours ça ou...
Ça existe toujours, mais après ce sont des démarches plus marketing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer des nouveaux clients en offrant des conditions plus avantageuses, modulo certains critères. Ouais. Tout à fait.
On a René qui est avec nous de Toulouse. Salut René.
Oui, bonjour cher ami, bonjour à toutes, à tous. Bonjour. Écoutez, je voudrais revenir sur l'aspect des franchises. Nous savons tous que quand on loue une voiture, on en parle beaucoup, mais dans le quotidien, notamment pour les assurances, moins de 5000 km et moins de 8000 km pour les publics qui roulent peu, ou qui, pour le cas d'une deuxième ou un troisième véhicule, on regarde la carte verte, il y a un tampon derrière, et on s'aperçoit qu'il y a des franchises qui vont de 3 500 à 5 000 euros pour les moins de 5 000 km, par exemple, et assurance au tiers. Ça veut donc dire que le conducteur ou la conductrice qui fait très peu de kilomètres et qui, malheureusement, a un accrochage, pour rembourser une aile ou je ne sais quoi, par rapport à son opposant, il va quand même devoir payer lui-même, puisque pour les bricoles du quotidien, il sera pas couvert. Alors j'aimerais avoir l'avis des auditeurs en assurance qui sont au micro.
Notre invité Olivier Moustakakis.
Le principe de la franchise, puisque ça concerne, c'est votre question, le principe de la franchise, c'est le reste à charge pour l'assuré. C'est-à-dire, c'est ce que vous devrez sortir, entre guillemets, de votre poche. D'accord ? Donc, plus vous avez un montant de franchise élevé, plus la prime d'assurance va être faible. Donc, c'est un principe. Plus la franchise est élevée, plus votre cotisation d'assurance sera faible. Plus la franchise est basse, plus la cotisation sera élevée. Donc ça, après, c'est un arbitrage et un choix à faire sur ce que vous jugez pertinent vous concernant. Si vous préférez payer un petit peu moins de cotisation, mais en cas de sinistre, vous aurez plus à débourser et plus qui sera à votre charge. Donc voilà, donc c'est après en fonction un peu de votre expérience et de votre historique, on va dire, personnel, en fait, que vous déciderez un peu d'ajuster et de faire moduler le niveau de franchise pour faire augmenter ou baisser votre prime d'assurance.
En fait, l'assurance auto, ça ressemble beaucoup au système de santé américain, je trouve. C'est-à-dire que on choisit, c'est le système de santé de notre voiture finalement. C'est-à-dire qu'on choisit d'augmenter peut-être notre part de cotisation pour minimiser la franchise, pour optimiser le remboursement en cas de risque. C'est un petit peu ça. Ça ressemble à ça en tout cas, Olivier, je trouve.
C'est tout à fait, tout à fait. Après, en termes de conseils, ce que l'on peut donner pour les sinistres de peu de faible montant. Il faut éviter de les déclarer si vous avez la possibilité de les régler vous-même, de faire réparer parce que vous avez un ami carrossier et qui va vous faire un prix sympathique, on va dire. Parce que ça évite de déclarer des sinistres, donc d'avoir ensuite une fréquence de sinistres qui peut être susceptible déjà de potentiellement vous faire résilier par votre assureur. Vous aurez ensuite plus de mal pour trouver un tarif intéressant à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est à vous un peu d'arbitrer là-dessus.
Question Olivier Moussakakis, avant de se quitter, vous êtes le cofondateur de Assureland.com, on l'a vu, ce cabinet spécialiste des assurances auto, Facts and Figures, enfin des assurances en général et en particulier pour l'auto, a fait une simulation qui proposerait une fourchette de 1 à 2% d'augmentation en 2021 sur les contrats auto. Aujourd'hui, on développe de plus en plus la voiture autonome, en tout cas. Quoi qu'il en soit, même si elle n'est pas encore autonome, une voiture qui est extrêmement chargée de hautes technologies qui ont un coût incroyable et qui augmente le coût des voitures, on le voit bien. Est-ce que du coup, les assurances vont devoir aussi augmenter les coûts parce que nos voitures vont coûter de plus en plus cher avec ces petits matériaux par rapport à une ancienne deux chevaux, par exemple.
Coût de réparation,
est-ce que c'est prévu, ça, ou pas ?
En termes de coût de réparation, tout à fait. Les assureurs commencent à modéliser, bien évidemment, ça. Toute l'électronique embarquée, qui n'est pas récente, parce que l'électronique embarquée, ça fait quand même quelques années que les véhicules sont de plus en plus équipés. Voilà. Après, à terme, entre guillemets, la voiture autonome, sa promesse aussi, c'est de quasiment arriver à zéro sinistre, à plus d'accidents, puisqu'elle sera capable de freiner, de s'arrêter toute seule
en cas de danger. On n'oublie quand même pas qu'on a des êtres humains au volant, donc le zéro, j'y crois pas.
Voir. Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a des modélisations qui sont faites, ce sont des projections, on verra un peu dans l'avenir ce qui se passera réellement.
Pierre, pour conclure ?
Ouais, je pense que maintenant, dans le secteur de l'assurance auto, s'il faut maintenant imaginer la baisse des tarifs, et t'es pas loin dans ce que tu dis, c'est pour ça que j'y pense, Laurence, c'est que d'un côté, l'innovation peut apporter des pannes, c'est vrai, notamment dans les voitures, sur des cartes, différentes cartes logicielles, etc., de l'électronique embarquée. Et en même temps, je pense que c'est par le monde du connecté, du digital, qu'on arrivera maintenant à optimiser les comportements. Notamment, tu parlais sur l'alcoolémie. On a des moyens digitaux de pouvoir contrôler l'alcoolémie. On le sait bien. On a des moyens digitaux qui permettent maintenant, dans les écoles de conduite, de suivre la formation du jeune. Ça commence à exister. Et tout cela va permettre d'optimiser la formation. Il faudrait peut-être qu'on fasse une émission, d'ailleurs, Laurent, statut sur la formation des jeunes, parce que la formation des jeunes conducteurs, c'est la baisse des tarifs de demain. Je ne sais pas de la fin, Olivier. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
Complètement d'accord. Et c'est ce qu'on observe, d'ailleurs, les gens qui ont démarré en conduite accompagnée. Ils sont moins générateurs de sinistres que nous, à l'époque, où il n'y avait pas de conduite accompagnée.
Et je suis assez d'accord avec vous deux, d'autant plus qu'au-delà de faire une émission spéciale sur les jeunes et de les amener à mieux conduire, il n'y a pas qu'une histoire de prix d'assurance, il y a une histoire de sécurité, de protection, parce que moi j'ai un petit loulou là, enfin mon gosse il a un peu plus de 20 ans, j'ai pas du tout envie qu'il reste sur un accident de la route comme tous ceux qui ont des enfants, et une grosse pensée à malheureusement tous ceux qui ont perdu leurs enfants à cause de la route. Voilà, on voudrait éviter ça. Merci. Bon, on va tous vous donner l'occasion d'aller redécouvrir Assureland.com si vous ne l'avez pas encore fait ou si ça fait longtemps. Olivier Moustakakis, merci de nous dire toujours oui.
Merci à vous.
Moi, j'aime bien qu'un homme me dise oui.
Ah, c'est mieux que ça. Tu sais que Laurence, Olivier, et il faut le dire à l'antenne, quelquefois, la qualité d'un dirigeant, c'est aussi le reflet de la qualité de ses équipes.
Exactement.
Et ses équipes qui m'ont contacté, qui me contactent en permanence, sont vraiment extraordinaires. Bravo Olivier pour avoir bien recruté.
Et ça marche dans l'autre sens, c'est que les équipes sont aussi le reflet reflet du dirigeant. Bon, dites-moi, on va parler d'un autre dirigeant dans quelques instants, tout du moins d'un directeur. Il s'agit du directeur du CNPA, avec cette chose qu'on nous a pondue encore avec la Convention citoyenne qui voulait augmenter et faire une taxe sur le poids de votre voiture. Imaginez si vous achetez votre voiture neuve l'année prochaine et que vous devez payer sur un 5008 6 904 € de taxes en plus. Non mais on va, on en parle dans quelques instants avec Francis Bartholomé, président national du CNPA. Ça a été retoqué par Bercy, mais la ministre de la transition écologique Pompili ne lâche pas l'affaire. On en parle dans quelques instants. Pompé avec vous aussi, 0826 300 300.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule. Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
11h46, si vous deviez payer une taxe supplémentaire à l'achat de votre véhicule prochain selon son poids, c'est une des propositions de la Convention citoyenne. Par exemple, comme je vous le disais, pour un 5008, vous avez décidé d'acheter un 5008, si ça passe, vous devrez rembourser et débourser 6 904 € de taxes de plus avec cette taxe au poids en plus annoncée. Alors Bercy a retoqué la proposition, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ne lâche pas le morceau. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée, mon Pierre? Eh bien, on va en parler aussi avec notre invité. Il s'agit de Francis Bartholomé, qui est le directeur du CNPA, directeur national. Bonjour Francis.
Bonjour.
Bonjour Francis. Alors franchement Francis, est-ce que vous de votre côté vous commencez à y voir clair? Parce que alors je vais être très honnête, dans la même heure, on a eu deux affirmations totalement différentes. Ouais. D'un côté Bruno Le Maire qui a volé au secours d'Emmanuel Macron en disant non, il n'y aura pas de taxe, ne vous inquiétez pas. Pour le projet de loi de finances 2021, attention. Et puis de l'autre côté, Barbara Pompili qui nous dit, chez Jean-Jacques Bourdin, qui nous dit, ben moi, si, bien sûr, si, parce que j'y suis pour. Donc je vais le mettre dans mon projet de loi de transition écologique, machin, chouette, patachose. Et quand je regarde bien, alors vous, Francis, je ne pense pas que vous allez être très d'accord avec ce type de proposition. Sachez que le président du CNPA non plus, puisqu'il parle quand même d'une attaque frontale à l'automobile qui va juste casser le marché automobile français.
Alors,
oui,
Francis.
Oui, sur ce point-là, le CNPA s'est mobilisé toute la semaine, vous l'avez souligné. Bon, la première bonne nouvelle, je la reprends dans votre sens, c'est qu'au niveau de l'État et du ministère, on n'inscrit pas dans le plan de finances, cette nouvelle taxe, cette nouveau malus. Ça, c'est la bonne nouvelle.
C'est déjà bien.
Il aurait pu être, soyons optimistes, il aurait pu être.
Attention,
inscrit.
Francis, aujourd'hui, c'est pas dit que ça va pas revenir à un moment ou à un autre. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça.
Ce que dit Francis, c'est mieux que si c'était pire.
Oui, bien sûr, mais restons prudents.
Je dis que c'est mieux, pourquoi? Ça va nous demander beaucoup de surveillance. Pourquoi? Parce que maintenant, le dossier va passer à l'Assemblée, aux assemblées. Et là, on va avoir effectivement toutes les positions possibles, des amendements, des ajouts financiers, comme les malus. Vous savez, tous les ans, c'est pareil, hein. C'est très, très dangereux. Donc, nous, personnellement, c'est le pire, on va suivre de très, très près. D'ailleurs, on a mis les curseurs pour suivre tout ce qui va se dire, tout ce qui sera comme amendement. Puis on a aussi quand même le Sénat, qui est quand même beaucoup plus mesuré.
Oui.
Et puis, voilà. Donc, je suis pas que c'est gagné, mais disons qu'on a monté un petit chemin qui fait que le bon sens, je parlerai du bon sens quand même, hein,
Francis.
Qui veut, voilà.
Francis Bartholomé.
Oui.
Oui, vous qui êtes président national du CNPA, enfin, on va être honnête, ça n'arrête pas, ça tape sur la voiture tout le temps. On arrive à casser une bataille et hop, il y en a une autre qui arrive. Enfin, il y a un moment, stop, quoi. Qu'est-ce qu'ils en disent, les politiques, que vous les rencontrez?
Mais je peux vous dire que cette semaine, notamment, j'ai eu beaucoup de groupements, j'ai eu beaucoup d'amis dans les concessions, dans les affaires, qui m'ont dit, mais Francis, faut faire quelque chose, faut peut-être même bouger dans la rue, faut peut-être se déplacer. Je pense qu'à un moment donné, je crois que trop, c'est trop. Et peut-être que le trop, c'est trop fait en sorte que quand on veut opposer trop fort l'écologie et l'économie, et qu'on oublie l'économie, je crois que là, le ridicule arrive quelque part. On ne peut pas casser l'industrie française, on ne peut pas casser les mobilités, alors qu'il y a des choses simples qui fonctionnent. Utiliser la neutralité thermique, Moi, je vous dis qu'on a eu, du car bashing, on a aussi du diesel gate, mais on finira par avoir un électrique gate. C'est de la même façon.
Exactement.
Je crois qu'il faut, c'est tellement le raisonnable qu'il faut. Notre neutralité thermique, il faut de l'électrique, mais il faut tout, il faut réfléchir. Et puis, ce que je disais encore au ministre l'autre jour, il faut donner du temps au temps. On est tous d'accord, on est tous écologistes. Qu'est-ce que c'est que cette écologie qui s'est appropriée par certains? on a tous envie de lutter contre le réchauffement climatique. Sauf comment, il faut le faire d'une manière intelligente. Il faut donner un peu de temps. Il faut faire en sorte que ça ne soit pas que des taxes, que des mises en demeure permanentes qui fonctionnent le système. On va casser le système. Donc, je crois que le bon sens, j'espère, je suis avec vous, je pense que le bon sens va finir par l'emporter. Ça me paraît à peu près bien. Le dialogue, j'ai demandé, moi, bien sûr, comme beaucoup d'autres, à être reçu au ministère de l'Environnement. Et je vais essayer d'expliquer notre position. Améliorons l'état d'un parc roulant automobile, éliminons les véhicules les plus anciens, donnons la possibilité de... Voilà, il y a des choses simples à faire, sans parler taxes. C'est un vrai sujet qui est en train de casser tout le monde. Voilà.
Alors moi, ce que je vois, Laurence, ces derniers temps, tu le sais, hein, depuis qu'on fait Ça roule, depuis maintenant 5-6 ans...
C'est la sixième saison.
Ouais, j'ai l'impression, Laurence, que ça y est, pour la première fois, on a réussi, avec des mesures gouvernementales potentielles, on a réussi à casser le lien entre les constructeurs et l'État. Oui. C'est-à-dire que même les constructeurs s'y mettent. Le CNPA est en colère, le CCFA est en colère, les automobilistes sont en colère. Tout le monde est prêt à s'unir, risque de faire mal. Ça sent le mouvement Gilets jaunes puissance 1000.
Et on suivra ce mouvement. Merci beaucoup Francis Bartholomé. Je rappelle que vous êtes président national du CNPA. On aura sans doute l'occasion de vous convier de nouveau parce que Ça roule défend les automobilistes mais défend aussi la filière auto. On en est fiers et on continuera de le faire. Allez, 11h52, place à l'actu de Gaspard. Rapidement.
Stop.
Bonne journée.
Conducteur sans assurance, en conduisant sans assurance, on peut ruiner son existence. Slogan de la campagne lancée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui vient en aide aux victimes d'accidents de la circulation causés par des conducteurs dépourvus d'assurance. Le nombre de conducteurs sans assurance est estimé à 800 000 en France, soit une augmentation de 7 points en 6 ans. L'année dernière, près de 28 500 personnes ont été touchées et cela coûte cher. En 2019, pour indemniser les blessés ou les familles endeuillées, le fonds a déboursé 116 millions d'euros. Tenez-vous bien, les dépenses ont augmenté de 30% en 5 ans, mais la campagne de communication du FGAO vise surtout à alerter les personnes sans assurance sur les conséquences financières que cela peut avoir pour elles. Si le fonds va indemniser les victimes, il se retourne ensuite contre le responsable avec à la clé, dans la majorité des cas, une dette à vie avec des sommes astronomiques à rembourser. Rendu public en début de semaine, le rapport sur les infractions au code de la route pour 2019 montre une nette baisse des excès de vitesse relevés par les radars. En même temps, quoi de plus logique, vu que la plupart sont tout simplement HS, mais pas d'inquiétude, les caisses de l'État sont toujours bien remplies grâce à vos excès de vitesse. Le grand gagnant de 2019 est le radar automatique sur la 8 entre Nice et Cannes qui a enregistré plus de 205 000 flashs. Une sacrée performance puisque le second entre Colmar et Strasbourg est à 161 000 flashs.
Merci pour ces deux infos. Ça s'est passé cette semaine avec vous, Gaspard Koenig de Vaubicourt. Tout de suite, moto.
Sud Radio Moto, Jean-Michel Lenné.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui on va essayer une moto vintage.
Exactement, ouais, on va plonger dans un trail à l'ancienne avec un moteur qu'on connaît très bien, qui est remis au goût du jour. Alors c'est un style qui rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Et pour parfaire le tout, on va rouler sur les routes des Alpes dans un esprit très décontracté. Alors avant de vous dire ce qu'on va essayer, on va d'abord prendre le guidon pour un petit tour.
Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ce gros mono, il est issu d'une moto qu'on connaissait bien, qui était la Dominator 650. Maintenant, il est exploité dans une toute autre moto.
C'est au guidon de la MASH X-Ride 650 qu'on part faire un petit tour. Alors vous l'entendez, c'est un gros mono, ça vibre, ça cogne un petit peu, c'est un mono à l'ancienne.
Et oui, c'est un mono à l'ancienne, un gros mono 650 cm3, comme c'était courant d'en trouver dans les trails des années 80. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'est plus alimenté par un carburateur, mais l'injection pour respecter les normes de 2020. Alors imaginez-vous, au guidon des premiers trails qui ont fait Dakar, des machines à conception simple, avec un gros mono, c'est confortable, c'est économe. C'est ce que propose cette X-Ride 650 qui nous plonge dans l'ambiance d'antan. Alors que trouve-t-on sur notre mâche du côté du style?
Pour le style, on retrouve une peinture blanche, noire et rouge qui qui rappellera des souvenirs à certains d'entre vous. Des jantes toutes dorées à rayons, comme avant, et puis des pneus avec des gros crampons. Alors c'est des pneus qui ont un profil quand même routier, hein. On n'est pas là pour aller faire du tout terrain. Voilà, je me suis un petit peu égaré, je vais faire demi-tour, hop, voilà, on tourne dans un mouchoir de poche avec cette moto, c'est très maniable.
Alors c'est vrai que c'est très maniable, mais avant d'en parler, on va s'attarder sur quelques équipements. Il y en a un qui nous saute aux yeux, puisqu'on l'a sous le nez, c'est le tableau de bord tout rond, comme avant. Sauf que là, l'aiguille est un contour, la vitesse est dans un petit afficheur LCD assez difficilement lisible. Pour le reste, c'est un sans faute pour l'esprit vintage, avec une longue selle molletonnée avec des surpiqûres, le petit porte-paquet, le réservoir aux formes pleines de nostalgie et un large guidon avec sa barre de renfort, on s'y croirait.
Mais dis donc, Jean-Michel, en fait, c'est une moto Youngtimer, mais en moderne, en fait.
Eh bien, exactement. On peut dire que tous les codes sont présents, rien n'a été oublié. Même à la conduite, on retrouve une grande facilité de prise en main.
Ici, on est bien pour tester cette moto-là parce que non seulement la route est défoncée, mais en plus, elle tourne beaucoup. Et en plus, ça grimpe énormément. Alors, c'est bien, elle a beaucoup d'efforts à faire. Et puis, ça permet de voir aussi que le châssis ne valait pas si mal que ça. On n'est pas sur un truc hyper affûté, encore une fois, mais on est sur quelque chose qui se maintient très bien, qui est très agréable à rouler.
Et oui, c'est très agréable et c'est différent de la Dirt Track 650. Alors ces deux mâches 650, elles partagent le même moteur, mais tout le reste est différent. Le cadre, la fourche qui n'est pas inversée sur notre X-Ride et le mono-amortisseur qu'on a ici. Il y a quelque chose qu'on remarque sur les jantes dorées à rayons, ce sont des jantes de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, comme sur un super motard, mais avec des pneus de trail. Alors c'est étonnant, c'est un mélange des genres, puisqu'on trouve généralement des pneus de trail sur des jantes de 19 et 18 pouces, ou des pneus routiers sur des jantes de 17 pouces. Voilà. Voilà pour la curiosité. Alors quel est le tarif pour faire le plein de nostalgie? Eh bien, cette mâche X-Ride 650 est pour vous à 5 595 €. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne semaine.
Super.
Et puis, bah, belle balade.
Eh ben,
rendez-vous la semaine prochaine.
C'est noté. Rendez-vous semaine prochaine, Jean-Michel Lenné, Monsieur Moto. Allez, juste après le journal de midi, quelle est la place de l'automobile dans les grandes villes à l'heure du Covid, entre les pistes cyclables, les stationnements, la circulation, les mesures anti-voitures? Sachez que dans les grandes métropoles, les habitants semblent soutenir ces politiques anti-voitures, alors qu'à la campagne, c'est totalement différent. Et vous, pour ou contre ces mesures anti-voitures, que vous soyez en ville ou à la campagne, en raison du Covid, on vous attend. 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule, Laurent Spiro, Pierre Chasseret, 11h30.
Ah, il faut que je vous dise aussi pourquoi j'ai été un peu perturbée. Vous êtes très très nombreux à réagir et on vous en remercie sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous suivez, hein, l'émission en direct, où vous voyez nos trognes. Et puis il y a plein de jolis messages. Merci beaucoup à Romain qui nous parle de moto, à Gauthier Willem qui nous dit aussi beaucoup de choses sympas. Mon Pierre sur ça roule, vous êtes très nombreux à être avec nous, on adore. Ça va toujours mon Pierre?
Écoute, moi c'est la méga forme à peu de choses près. En tout cas, c'est vrai que quand on entend le sujet dont on va parler, j'ai intérêt à être en forme parce que je sens que ça va me secouer un petit peu ça.
Eh bien oui, nous allons évoquer la place de l'automobile dans les grandes villes à l'heure du Covid, entre les pistes cyclables, les stationnements, la circulation, les mesures anti-voiture. Eh bien, figurez-vous qu'une étude démontre qu'une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, hein, c'était la semaine dernière d'ailleurs, cette semaine qui se termine, que les habitants des grandes métropoles sont pour cette politique anti-voiture, pistes cyclables, stationnement, circulation bloquée, et alors que dans les campagnes ou dans les petites villes, eh bien c'est tout le contraire. Et vous, vous vous situez comment? Est-ce que vous êtes pour ou contre ces mesures anti-voiture, que vous soyez en ville ou à la campagne? On accueille tout le monde sur Sud Radio, 0826 300 300, c'est votre rendez-vous. On va en parler dans quelques instants avec notre invité François Croze, qui est directeur du pôle politique actualité de l'IFOP. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret,
Laurence Perrault.
Et notre dernier sujet de ça roule avant de laisser la place à toute l'équipe des amoureux du vin, celle d'Alain Marty, juste après la dernière pause de 12h26. Dites-moi, il y a une étude qui a été faite, une étude sur toutes les mesures anti-voiture et la place de l'automobile dans les grandes villes à l'heure du Covid. Et comment nous, les habitants, que nous soyons habitants grandes villes, petites villes, campagne ou pas, on ressent ces mesures anti-voiture. C'est une étude IFOP pour Caroom, réalisée par questionnaire aux auto-administrée, ça s'est passé en ligne du 14 au 16 septembre 2020, auprès d'un échantillon de 1017 personnes, représentatives de la population, pardon, oh le lapsus, âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, et d'un échantillon de 1031 personnes, représentatives de la population vivant dans les villes de 100 000 habitants et plus. Pour en parler avec nous, François Cros, directeur du pôle politique Actualité IFOP. Bonjour, monsieur Cros.
Bonjour.
Quelle bonjour. Jolie voix. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que dans les grandes villes, la majorité des habitants des grandes villes sont à 51% favorables à ces mesures anti-voiture, voire même à 62% exactement.
Oui, en fait, il y a un vrai fossé entre les habitants des grandes villes, notamment des villes-centres. C'est très important. C'est par exemple Paris intramuros. Ce n'est pas la c'est banlieue ça. De l'agglomération parisienne, et encore moins ceux qui habitent en zone périurbaine ou en zone rurale, qui eux sont non seulement opposés à ces politiques de réduction de la place de la voiture, parce que la voiture a un rôle beaucoup plus important dans leurs déplacements pendulaires et quotidiens au sens large, mais en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Chez l'ensemble des Français, on a une opposition plus forte à ces politiques, à ces stratégies anti-voiture. Mais dans les villes-centres des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, eh ben là, on a quand même un soutien assez net, environ les deux tiers des habitants qui soutiennent les politiques menées notamment par les municipalités socialo-écologiques qui ont été confirmées ou qui sont arrivées au pouvoir lors des dernières élections municipales.
Alors là, c'est quand même assez effrayant ce qui se passe, parce que je pense, et c'est peut-être la lecture que vous en faites, moi je n'ai pas que votre lecture. Je m'aperçois surtout qu'il y a une énorme dichotomie, alors depuis le temps que je voulais placer le mot, ça y est, c'est fait, une espèce de division forte des Français, mais qui s'est extrémisée ouais. en fait. C'est-à-dire qu'on est soit totalement opposé, on veut plus une seule voiture, soit de l'autre côté, on se dit, j'en ai absolument ras-le-bol de ces politiques qui sont établies à Paris et qui s'appliquent à toute la France, parce que c'est ça la réalité. C'est qu'on impose le choix d'une minorité ultra-urbaine à la majorité des territoires français. En fait, c'est 3% du territoire français qui gouverne 97% du territoire.
C'est ça.
Alors attention, nous, dans cette enquête, on a mesuré... on a posé la question, est-ce que vous adhérez en gros aux politiques ou est-ce que vous souhaitez que dans votre commune, au sens strict, il y ait des mesures de ce type. Donc on voit que dans les villes-centres des grandes agglomérations, il y a un soutien majoritaire, mais dans les zones rurales ou les banlieues, notamment périurbaines, il y a une opposition. Et ça tient au fait que, est-ce que les gens ont une voiture ou pas? Vous savez qu'à Paris, par exemple, vous avez que la moitié des gens qui ont une voiture. Et puis, si on a des enfants ou si on a des conditions de travail qui nécessitent d'avoir une voiture ou non. Et c'est en gros l'idée que ce qu'on voit, c'est que notamment dans les grandes villes, il n'y a qu'une minorité de personnes qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller au travail, même s'ils en ont. Donc, bien sûr que les conditions de vie, d'âge, de parentalité, de lieu François, de vie, déterminent beaucoup la position des Français sur ce sujet.
François Cros, directeur du pôle politique actualité de l'IFOP, d'après votre sondage, donc on a annoncé 62% des habitants des 40 villes de plus de 100 000 habitants. Donc, c'est pas que Paris. Voilà, il faut qu'on parte un petit peu de Paris. Alors, dans le détail, puisque vous êtes aussi spécialiste de la politique, vous nous dites aussi que cette politique semble particulièrement avoir les faveurs des jeunes à 79%, des cadres à 66%, voilà. Et, c'est bizarre, des électeurs de Europe Écologie Les Verts à 95%. Quelque part, on a l'impression que c'est dirigé comme étude. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, dirigé, non, nous, le commanditaire, il n'est pas du tout politisé. C'est un site de comparateur de voitures qui s'intéresse en gros à les motivations et les freins d'achat des consommateurs. Et on sait qu'il n'y a pas que le prix, il y a aussi est-ce que je vais pouvoir garer ma voiture, est-ce que je vais pouvoir circuler dans une grande agglomération. Donc, il n'y a pas de mauvaise arrière-pensée. On a juste, en fait, nous, observé quelles étaient aujourd'hui les catégories de la population urbaine qui soutenaient le plus ces politiques anti-voiture. Et on voit que c'est beaucoup des jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui ne travaillent pas, ou des cadres qui ont souvent les moyens d'habiter dans des villes-centres où il y a le prix du foncier et de l'immobilier qui est extrêmement élevé, que tout le monde ne peut pas accéder. Donc, en fait, il y a souvent l'idée que ces politiques anti-voiture, il y a aussi une dimension sociale qui joue contre notamment les catégories populaires. Et vous savez que les catégories populaires dans les grandes villes, dans les villes-centres, il n'y en a plus beaucoup depuis quelques dizaines d'années.
En fait, ce qui s'est passé, si on veut vraiment avoir une lecture fidèle de ce qui ressort de votre étude, c'est que je me dis finalement, bon ben voilà, c'est le reflet un petit peu de notre dernière élection municipale. On a eu des grandes villes qui ont élu pour certaines des candidats Europe Écologie Les Verts, et on sait très bien que la population la plus fragile, qui craignait le coronavirus, ne s'est que très peu déplacée pour voter, notamment les plus anciens. Donc moi, j'ai envie de dire à la lecture, ce que je note, c'est les jeunes qui n'ont pas encore l'expérience de la vie, des besoins, de la mobilité, des enfants à emmener à l'école, aux activités le mercredi, le vendredi soir, partir en week-end en famille le samedi, dimanche, eh bien, eux qui sont allés voter, on a le même reflet. Ils ne veulent plus de voiture, jusqu'au moment d'ailleurs où ils en voudront, le jour où ils auront 30-40 ans, et ce jour-là, ils vont quand même se rendre compte que leur position un petit peu sectaire de l'époque, eh bien, elle a fait du mal, parce qu'actuellement, on fait du mal à la France en termes de mobilité. Ce qui est incroyable, c'est que dans les grandes villes, on veut plus de voitures, mais les habitants des grandes villes sont tout à fait OK pour avoir une voiture quand eux, ils partent en week-end dans les campagnes ou sur le littoral. C'est là où on a quand même un problème. Qu'est-ce qu'ils diraient ces jeunes s'ils n'avaient plus le droit de rouler sur le littoral?
Et puis, il n'y a pas que ça, Pierre. C'est qu'en temps de Covid, avec cette crise sanitaire, la majorité des gens, quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez en France, vous avez repris votre voiture ou évidemment le boom du vélo. On va en parler, hein, parce que vous le notez aussi dans votre étude, François Cros. Mais en fait, il y a de moins en moins de gens qui utilisent les transports en commun, s'ils en ont la possibilité, à cause de cette pandémie. Alors, ce boom du vélo et de la marche à pied dans les déplacements des habitants des grandes villes, là aussi, vous avez noté ça, François Cros, dans votre étude qui a été faite par l'IFOP pour 40.
Oui, alors, c'est pas étonnant. Hein. On sait que les politiques cyclables, le développement, l'essor des pistes cyclables, la fermeture de certaines voies de circulation au bénéfice des vélos, le fait qu'il y ait aussi des vélos électriques depuis le confinement, il y a eu un effort surmultiplié dans les grandes villes pour développer encore plus le vélo qui apparaît, et c'est ce que montre notre enquête, le mode de transport le plus sécurisant, le moins anxiogène vis-à-vis notamment des transports en commun. Bref, nous on observe en l'espace de 5 ans, donc ça précède aussi, c'est un mouvement qui est antérieur à la période du confinement et du déconfinement, un triplement du nombre d'usagers du vélo dans les grandes villes, dans les 40 plus grandes villes de France, si on compare par rapport à des données INSEE de 2015. Donc on voit bien qu'il y a une tendance qui est favorable, mais tout le monde ne peut pas prendre le vélo. Le vélo, c'est surtout pour des gens qui sont qui sont pas très éloignés de leur lieu de travail ou de leur lieu d'études. Et ça signifie que les gens qui vivent en zone urbaine ou en banlieue assez éloignée sont toujours obligés de prendre la voiture ou les transports en commun.
Juste parce que je vous m'avez entendu rire, c'est parce que vous êtes nombreux à réagir aussi sur la page Facebook Sud Radio. Et voilà, vous commentez. Il y a Gauthier Willem qui nous dit le vélo avec la pluie, dans une semaine, on va être mort. Depuis une semaine, mort de rire. Voilà.
Mais bien sûr, parce que la saisonnalité. Alors, vous avez, en fait, en ce moment, j'ai rigolé parce que hier, j'étais sur Twitter. Et puis, j'ai vu un ancien copain qui était journaliste dans le secteur de l'automobile. Et maintenant, il a pété un plomb. Il parle plus de voiture, il parle que de vélo. Et il a posté une photo où, en fait, il était en train de transporter, de déménager un objet de plus de 200 kilos à l'arrière de son vélo. Et je me suis dit, bon, ça y est, là, on a touché le fond, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, peut-être qu'il peut déménager avec une caravane. Non, mais s'il veut. Non, mais ce qu'il faut, c'est arrêter de croire que c'est parce que nous, on a fait ce choix-là qu'on doit l'imposer à tous. Aujourd'hui, l'hygiénisme qui ambiant fait que l'on voudrait à tout prix que tout le monde lâche sa voiture. Ça devient du délire. Vous croyez qu'on va partir en vacances en trottinette avec les gamins derrière? C'est n'importe quoi.
Excusez-nous, François Grosse. Il y en a une autre, elle est magnifique. Directeur du pôle politique actualité de l'IFOP, on revient sur votre étude. Mais on a aussi Yves Dale, bonjour Yves, qui dit « Il ne me reste plus qu'à acheter une mule que j'appellerai EELV pour me déplacer. » Mais bon, après, une fois de plus, hein, on n'est pas en train de taper sur le fait qu'il faut faire attention. On est tous d'accord de faire attention à notre planète, mais le faisons intelligemment et pas avec des gens qui veulent imposer une dictature. D'autres révélations dans cette étude, François Cros, étude IFOP pour Caroum, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 7 septembre 2020. Donc c'est assez proche de nous. Échantillon de 1017 personnes qui sont représentatives, bien sûr. 18 ans et plus, résidents en France métropolitaine. Et puis on a un échantillon aussi de 1031 personnes qui sont représentatives de cette population qui vit dans les villes de plus de 100 000 habitants, dans les villes de grande solitude. Il y a d'autres choses aussi qui vous ont étonné par rapport à ces réponses.
On est toujours... Oui, parce qu'on voit qu'il y a une certaine, pas contradiction, mais dans l'enquête, y compris, donc on a bien vu que les habitants des villes-centres se distinguer du reste de la population par un soutien aux politiques globales de réduction de la place de l'automobile dans la ville, mais ils ne sont pas pour autant favorables à la réduction des places de stationnement, à l'augmentation des prix du stationnement.
Ben oui. Donc, globalement, oui. Ils sont très... Ils veulent garer leur bagnole.
Voilà. Donc, c'est pas étonnant non plus. Hein. Vous savez, c'est toujours pareil. On est toujours contre l'usage de la voiture quand on l'utilise pas.
Pour les autres.
On doit être amené à l'utiliser. On souhaite que les infrastructures urbaines soient le plus favorables à...
Je vais vous faire rire.
Ce genre de choses.
Je vais vous faire rire. Dans les grandes villes et dans les petites villes aussi, c'est la même chose. Souvent, le maire reçoit des habitantes qui disent tous la même chose. On roule trop vite dans ma rue. Et le maire est toujours très embêté parce que il cherche à répondre à cette inquiétude des riverains qui disent, mais moi, je veux que ça ralentisse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met un ralentisseur. Et vous savez que ceux qui réclamaient le ralentisseur, trois semaines après, ils sont en train de réclamer qu'on l'enlève. Ah ouais. Parce qu'au final, ça crée plus de nuisances. Donc, on est tous, en fait, on pense tous pareil. À la limite, on est pour que les autres ne roulent pas, mais nous, on veut trouver une place de stationnement pour mettre la nôtre.
Il y a autre chose, et ça va dans ton sens, Pierre, et ça va évidemment dans cette étude. François Cros, directeur du pôle politique actualité de l'IFOP, qui a réalisé cette étude pour Caroum, c'est qu'effectivement, dans les villes de grande solitude de plus de 100 000 habitants, où la majorité, c'est-à-dire 62% des habitants, surtout des centres-villes qui généralement peut-être même pas de voiture, sont pour hein, ces mesures anti-voiture et la place de l'automobile en ville. Sauf que ils expriment un fort mécontentement à l'égard des conditions actuelles de circulation à plus de 63%, stationnement à plus de 69%. Et évidemment, moi, j'habite en région parisienne. Je peux vous dire que je vais de moins en moins à Paris avec ma voiture. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous prenez la porte d'Orléans, ça va être pareil à Montpellier, à mon avis. C'est pareil à Strasbourg, à Lille, à Biarritz, peut-être moins à Biarritz. Ça va être pareil à Bordeaux, évidemment. Quel bazar Bordeaux. Enfin, je n'en dirai pas plus. Vous prenez la porte d'Orléans. La porte d'Orléans, quand vous vous enquillez ensuite vers la Alésia, donc aller vers d'enfer Rochereau, donc on rentre dans le sud de Paris, vous aviez effectivement, pour entrer et sortir à ce moment-là, un énorme espace dédié, il y avait deux voies de voiture de chaque côté, donc quatre voies, il y avait la voie de bus. Aujourd'hui, vous avez une voie de voiture de chaque côté, la voie de bus est devenue une piste d'atterrissage pour un Boeing 747, et la voie de vélo est devenue une piste d'atterrissage pour un avion de plus petite taille. On est dans une aberration totale. Donc là, François Cros, on voit bien qu'ils ne veulent pas de la voiture, mais ils sont mécontents parce que ça crée des conditions invivables en ville, pour le coup.
Non, ils ne veulent pas de la voiture des autres.
Attention, oui, mais, non, mais ils ne veulent pas non plus. Voilà, François, c'est ça, ils sont fort mécontents à l'égard des conditions actuelles de circulation.
Oui, alors attention, c'est toujours difficile d'interpréter la chose. On peut être mécontent parce que globalement, on circule mal, mais on peut être aussi mécontent parce qu'on trouve que justement, il y a trop de voitures et que ça pollue, du bruit, etc.
Mais c'est les conditions qui créent ça.
Voilà, bien sûr.
C'est la politique à l'envers, on marche sur la tête.
Mais il y a quand même, à Paris, vous en parliez, on observe ça dans différentes portes d'entrée dans la ville. Puis il y a ce développement des corona-pistes, qui ont consisté à fermer des voies de voitures pour y laisser passer des gens en vélo. Et puis donc, tout ça montre globalement, parce qu'il n'y a pas que cette enquête qui a eu un essor très net de l'usage des vélos durant l'été jusqu'en septembre, avec des statistiques de déplacement qui sont... très clair en termes de progression de l'usage, mais en même temps, on a un engorgement des conditions de circulation de voitures. Et puis, comme vous le disiez très bien, est-ce que cet usage du vélo va se poursuivre avec l'arrivée de l'hiver? C'est pas sûr du tout. Donc, il n'y a jamais de solution parfaite en matière de transport. L'intérêt, ce sera de voir si, dans 5 ans, aux prochaines élections municipales, les municipalités qui auraient été le plus engagées dans cette lutte contre la voiture seront soutenus ou pas. C'est un peu la question qu'il faudra se poser, puisque, comme le disait très bien notre intervenant, tout le monde n'a pas voté aux dernières élections. Il est possible que ceux qui ont le plus besoin de leur voiture, je pense notamment aux personnes âgées qui ont toujours plus de problèmes de mobilité, soient plus mécontentes que la moyenne. Voilà.
On se ferait pas un petit IFOP 40 millions d'automobilistes, tiens, sur la France, les 97% des territoires français qui en ont ras-le-bol de la politique conduite contre les automobilistes?
Oui, ça peut être intéressant à mesurer.
Ça ferait du buzz, ça. Ça ferait du buzz.
Mais je vous rappelle que chez l'ensemble des Français, en l'espace de 20 ans, la proportion de gens qui sont contre cette politique a progressé d'une quinzaine de points. A été minoritaire, maintenant elle est majoritaire. Mais ça n'empêche pas que dans les villes concernées, celles qui ont voulu fermer l'accès de leur cadre de vie au reste de la population, ces politiques sont soutenues.
C'est ça qui est marrant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sera peut-être pour conclure, mais je me souviens de Jacques Millard, un maire de banlieue parisienne, qui avait fait passer un arrêté génial dans sa ville, une délibération de conseil municipal en disant « Moi, j'interdis aux Parisiens de rentrer dans ma ville ». J'avais trouvé ça super drôle. Il n'avait pas le droit de le faire, évidemment, mais c'était de la provocation.
Quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Hein. Michel Desnoyers qui nous dit « Le but avoué est de décourager les automobilistes, quitte à faire plus de pollution, en l'occurrence dans ces grandes villes ». Alors, je suis pas persuadée que ce soit ça, mais ah, pardon, Yves Dade me dit Laurence Dade se prononce Dade. Voilà, mon Yves, pardon. Il est dans le Tarn. Bravo pour notre émission, nous dit-il. Mais en fait, voilà, la problématique, c'est que moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que cette politique des mesures anti-voiture et la place de l'automobile dans les grandes villes à l'heure du Covid, et en tout cas, ça a été accéléré par le Covid, une fois de plus, Pierre, sépare les gens. Ça met en scission, ça divise.
Exactement.
Il y en a marre de diviser. Alors évidemment, c'est plus votre côté, François Cros, mais...
Diviser voilà. Pour mieux, dans l'enquête pour mieux régner,
c'est ça. Oui, dans l'enquête.
Si je peux me permettre, dans l'enquête, il y a non seulement une division géographique entre les habitants des villes, des centres-villes et le reste de la population, mais il y a aussi une division sociale, puisque ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que ceux qui utilisent encore leur voiture, c'est beaucoup des ouvriers, des catégories populaires qui n'ont pas les moyens d'habiter dans les villes-centres et qui, eux, n'ont souvent pas les moyens de transport, qui fait qu'ils sont toujours obligés d'utiliser leur voiture. Donc, cette politique, c'est aussi une politique pas antisociale, mais en tout cas, qui se fait au détriment des catégories les plus populaires. Ouais.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi clair pour Sud Radio et pour Saroul. François Cros, directeur du pôle politique Actualité IFOP, avec plaisir pour nous de vous faire intervenir prochainement dès que l'actualité s'y prêtera. Allez mon Pierre, on fait un petit tour du côté du carburant, parce que ça a augmenté ou pas, Gaspard ?
Sud Radio.
Ça roule.
La minute qui carbure.
Avec de bonnes nouvelles puisque le samplon 98 baisse de 0,4 centimes, 1,40 en moyenne. Le gazole, 0,2 centimes, 1,21 de moyenne. Par contre, si vous roulez au samplon 95, et c'est le seul carburant qui augmente cette semaine avec une petite augmentation de 0,1 centimes, 1,34 le litre en moyenne.
Ouais, alors ça s'explique, c'est la demande de consommation américaine qui reprogresse notamment sur les véhicules essence et qui crée cette petite tension sur les carburants, mais à la marge, puisque l'Europe ne consomme que très peu de carburant encore. La relance économique n'est pas encore faite en Europe. Hein.
Vous êtes une véritable encyclopédie, Pierre.
On m'appelle universaliste.
J'adore votre humilité, Pierre Chasseret. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci mon Pierre, prends soin de toi bien. Tu nous tiens au courant de ton test Covid et fais attention à toute ta jolie petite famille. Salut mon Gaspard.
À demain, enfin pour moi.
Merci à Manon d'avoir été au standard. Merci à Max d'avoir réalisé cette émission. Et tout de suite, merci à Invino et Alain Marty de nous faire plaisir avec son émission sur les vignerons, la viticulture et les vins, bien sûr, avec modération.